Y a-t-il des jeunes qui n'ont pas entendu parler de la mission locale au cours de leur carrière, de leur formation ? Peut-être pas, peut-être que oui, nous allons en débattre justement avec des invités aujourd'hui pour parler des 40 ans du réseau des missions locales, une association, une institution même en termes de formation professionnelle, de mobilité et d'accompagnement plus général des jeunes. On va en reparler tout au long de cette lorgnette. Bienvenue dans votre magazine d'actualité. Je suis accompagné cette semaine pour parler des 40 ans de la mission locale de trois invités qui vont donc pouvoir échanger autour de ce sujet. Bonjour Amadou Tal, vous êtes chargé de projet à la mission locale de Blois depuis sa création, l'ouverture de l'antenne du Blaisois en 91. Bonjour.
Bonjour.
Il va falloir parler bien près du micro, Amadou.
Bonjour.
Voilà, vous pouvez le relever, il n'y a pas de souci.
Bonjour.
Voilà, là on est bien près du micro, c'est parfait. Donc vous êtes, comme je le disais, chargé de projet à la mission locale, donc depuis son ouverture en 1991.
Oui, donc je fais partie un peu des premières personnes qui en janvier 91 ont été recrutées au niveau de la mission locale de Blois. À l'époque, on était à peu près 5 salariés et actuellement, la mission locale de Blois compte à peu près une cinquantaine de collaborateurs.
Je suis également accompagné autour de cette table de Farid Haddak, qui est également chargé de projet. Bonjour Farid.
Bonjour.
Donc depuis un peu moins longtemps qu'Amadou.
C'est ça. Moi, je suis arrivé en mai 2021, après une longue expérience professionnelle en tant qu'éducateur. Et donc j'ai voulu donner un nouveau virage à ma carrière, on va dire. Et puis ben, je suis arrivé en tant que conseiller à la mission locale, spécifiquement sur les quartiers politiques de la ville. Donc sur le site Mirabeau à l'époque et aujourd'hui sur le site Lorjou, qui est tout récent depuis mai dernier. Et puis depuis, donc, je suis coordinateur sur le dispositif des jeunes invisibles. Donc les jeunes invisibles, juste pour en dire deux mots. C'est tous les jeunes qui sont hors cadre, hors radar institutionnel, hors projet d'insertion, que l'on essaye de repérer pour pouvoir les mobiliser, les accompagner dans un projet d'insertion, pas automatiquement professionnel, mais qui peut être social ou dans la vie quotidienne.
Très bien, on aura l'occasion évidemment d'en reparler durant toute cette émission. Et puis une voix que vous connaissez peut-être à Studio ZEF, vous la reconnaîtrez en tout cas. Adam, salut.
Salut Thomas.
Évidemment, donc ancien service civique, volontaire en service civique au sein de Studio ZEF l'année dernière et donc accompagné par la mission locale depuis combien de temps maintenant ?
Depuis octobre 2020.
Très bien.
D'abord sur l'avenue de Vendôme et puis ensuite j'ai basculé sur, Mirabeau puis Lorjou.
Très bien. Ça nous semblait important et complémentaire de la présence des salariés de la mission locale d'avoir un jeune. Et on en avait un Studio ZEF sous la main, donc ça tombait pas mal. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu l'histoire de la mission locale avec vous, Amadou, de manière assez générale, et puis sur Blois, évidemment, un petit peu. Alors vous l'avez évoqué déjà.
Je vais essayer un peu de faire appel à ma mémoire. Comme je vous disais un peu, la mission locale de Blois a été créée en janvier 1991, à l'initiative à l'époque de M. Jacques Lang, qui était le maire de Blois. Et auparavant,
le dispositif existait déjà, hein, puisque du coup, ça fait 31 ans que le dispositif existe sur Blois.
Ouais. Existe sur Blois, mais avant la création de cette mission locale, il y avait une PAIO qui existait sur Blois.
Qu'est-ce que c'est une PAIO ?
Une PAIO, c'était une permanence d'accueil, d'information et d'orientation professionnelle qui s'adressait uniquement à des jeunes de 18 à 25 ans et qui était plus axée uniquement sur de la formation.
Très bien.
Donc les missions locales, par contre, à la création des missions locales, donc suite à un rapport de Bertrand Schwartz dans les années 81, donc les missions locales ont été créées et le rôle un peu des missions locales, c'était avec un public un peu plus large, hein, c'est-à-dire c'était plus les 16-25 ans, avec un objectif principal qui était d'accueillir tous les jeunes. Tous les jeunes, que ce soit des jeunes diplômés ou non diplômés, des jeunes habitants en zone rurale ou en quartier prioritaire, etc. Donc tous les jeunes sont accueillis à la mission locale avec un objectif prioritaire qui était de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. La particularité un peu de ces missions locales, c'était en fait d'avoir des équipes pluridisciplinaires avec des conseillers ou des gens issus de différents secteurs professionnels et qui avaient un peu des compétences en matière de formation, d'insertion professionnelle, d'appui à la recherche d'emploi. Et donc cette équipe pluridisciplinaire un peu était regroupée dans ce lieu unique et qui permettait effectivement d'accueillir tous ces jeunes et à partir de là d'essayer de les accompagner dans un parcours d'insertion professionnelle avec une approche quand même qui était centrée un peu sur le jeune, hein, ce qu'on appelle l'approche globale. En fait, on prend tous les paramètres ou toutes les difficultés que le jeune peut rencontrer, que ce soit des difficultés d'ordre social, logement, santé, etc. Et puis on essayait un peu de lever ces freins-là pour favoriser un peu leur insertion professionnelle. Ça, c'est un peu la particularité des missions locales, c'est d'avoir un peu cet accompagnement individualisé et de proximité en essayant de lever tous les freins qui pouvaient un peu constituer un obstacle à l'insertion professionnelle du jeune. Ce travail d'accompagnement est consolidé par un large partenariat, hein, puisque la mission locale ne peut pas tout faire. Donc en matière, par exemple, on a de multiples partenaires, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'emploi, etc., etc. Donc c'est ce large partenariat aussi qui fait un peu la force et la particularité un peu des missions locales.
Est-ce que, pour caricaturer un petit peu, on pourrait qualifier la mission locale de Pôle emploi des jeunes? Est-ce que c'est trop... Est-ce que c'est caricatural
non,
de dire
c'est
ça?
C'est caricatural de dire que c'est le Pôle emploi des jeunes, puisque les jeunes n'appartiennent pas forcément à la mission locale. Les jeunes peuvent être inscrits à Pôle emploi, peuvent être accompagnés par Pôle emploi, mais la spécificité et la plus-value un peu de la mission locale, c'est cette approche globale et cet accompagnement qui se veut individualisé avec une connaissance du jeune sur toutes ses difficultés et de pouvoir travailler sur tous les champs pour pouvoir effectivement favoriser l'insertion professionnelle des jeunes.
Farid.
L'idée, c'est de pouvoir aussi s'intéresser aux jeunes et à ses projets. Et en fait, le jeune est acteur de son projet. On ne va pas lui faire des propositions d'emploi. On n'est pas, comme vous dites, un pôle emploi bis. En fait, on est plus dans le projet d'insertion, que ce soit l'insertion professionnelle, l'insertion sociale. Et donc, pour cela, on a besoin...
On dépasse clairement le champ du travail.
Voilà, on est vraiment... Et puis, pour arriver au champ du travail, je pense qu'il y a un long travail à faire en amont. Et c'est ce travail-là qui est un peu... Je ne vais pas dire notre richesse, mais un peu un label de qualité pour qu'on puisse échanger avec les jeunes et de s'intéresser vraiment aux jeunes. On ne va pas partir d'idées qu'on va avoir, parce qu'on a plein d'idées pour mettre les jeunes au travail, mais sauf que si le jeune n'adhère pas, ça ne sert à rien. En fait, on va se mettre dans un mur, mais je pense que Adam, il a pu voir qu'avant d'arriver à son projet d'insertion, on a abordé différents sujets, on est passé par du loisir, on est passé par de l'échange. Et l'idée, elle est là. L'idée, c'est de pouvoir mettre le jeune acteur principal de son projet, de sa vie quotidienne. Et je pense que ça, c'est un changement autour des missions de la mission locale. C'est de pouvoir innover nos pratiques et développer de nouvelles pratiques, tout cela en s'adaptant à la situation des jeunes aujourd'hui.
Juste pour compléter, Thomas, tout à l'heure, vous nous avez parlé un peu de dire Pôle emploi. Je vous ai dit que c'est la mission locale. Sa force, c'est effectivement l'accompagnement individuel du jeune, la connaissance du jeune, de faire du jeune un acteur de son insertion professionnelle à partir de ses propres besoins. Mais le but quand même aussi, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on a un large partenariat. Le but un peu, c'est d'apporter des complémentarités, c'est de construire une complémentarité pour renforcer en fait les réponses à apporter aux jeunes, que ça soit en matière d'emploi, de formation, de logement, etc. Et comme le disait un peu Farid, chaque jeune a son parcours, son histoire,
contexte familial, culturel, etc., et social.
Et c'est important de prendre en compte ces différents facteurs et à partir avec ce jeune de co-construire en fait son parcours d'insertion avec un accompagnement qui se veut vraiment individualisé par rapport aux besoins du jeune, par rapport à ses priorités et aller chercher les réponses aussi chez des partenaires. Par exemple, au niveau du logement, on va travailler avec pas mal de partenaires, le foyer des jeunes travailleurs, d'étudier toutes les possibilités un peu de logement qui peuvent exister, les aides mobilisables, etc. etc. La particularité un peu des missions locales, c'est une gouvernance locale. C'est-à-dire qu'on n'est pas une institution de l'État.
Ouais.
On est plus en lien avec les collectivités territoriales pour des raisons un peu de gouvernance sur les territoires et de se rapprocher véritablement des réalités des territoires, avec une participation aussi bien des syndicats, etc.
Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres peut-être ? Combien de jeunes en 2022 sont accompagnés par la mission locale à Blois ?
Bon, par la mission locale de Blois, on a à peu près 2500 jeunes qui sont accompagnés sur l'année, sachant que chaque année, on reçoit en premier accueil à peu près 1250
jeunes. D'accord, ok.
Voilà. Ouais. Donc ça bouge beaucoup, énormément. Bon, il y a des jeunes qui des fois sont accompagnés sur des temps beaucoup plus courts parce qu'on arrive très vite à les insérer. Et puis il y a d'autres jeunes qui nécessitent beaucoup plus de temps d'accompagnement. Donc tant qu'ils n'ont pas 26 ans, nous on continue à les accompagner. Et donc ils peuvent faire appel à la mission locale à chaque instant, à chaque moment de leur parcours professionnel ou social.
Dans le pire des cas, donc, un jeune de 15 ans, 16 ans, peut être accompagné jusqu'à ses
26 ans.
Voire plus.
Certains publics.
La structure associative permet une souplesse peut-être aussi à ce niveau-là.
Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, moi, en termes de chiffres qui m'intéressent, c'est que chaque année, il y a 150 000 jeunes qui quittent l'école sans qualification.
Ouais.
Il y a 25,7% des actifs de moins de 25 ans qui sont au chômage. Et dans ces 25, il y a 40% qui sont des jeunes vivant en zone urbaine sensible, d'accord ? Et plus d'un million de jeunes de 18-24 ans sont confrontés à une situation de précarité, de grande précarité, sur 9 millions, on va dire, de jeunes. Et un jeune sur cinq de 16-25 ans vit sous le seuil de pauvreté. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça veut dire que... Pourquoi je donne ces chiffres ? C'est qu'aujourd'hui, en fait... On a beaucoup de jeunes de 14... Moi, je vais aller un peu plus loin,
peut descendre jusqu'à 14 ans.
14 à 29 ans, qui, dû aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans la société, sont pas accompagnés, sont mal accompagnés, ou ne connaissent pas du tout tous les partenaires qui peuvent exister, adaptés à leur âge ou à leur situation. Et aujourd'hui, on a une réelle envie, une réelle mission de pouvoir... aller vers eux, parce que ça peut choquer de dire un jeune qui rentre à 15 ans va être suivi jusqu'à ses 25 ans. En fait, dans cette période-là, le jeune va travailler, va avoir un projet d'insertion. La mission locale est un fil rouge tout au long de la carrière, et en fait, on va plus s'adapter à la temporalité.
Un jeune peut décrocher un CDI, mais ne pas terminer son accompagnement à la mission locale parce qu'il va avoir besoin d'aide pour trouver un logement, etc. Comment sont repérés les jeunes qui peuvent être intégrés au dispositif et à l'accompagnement mission locale ?
Tous les jeunes, du moment qui sont sortis du système scolaire, peuvent s'adresser à la mission locale. Ce fait a été renforcé effectivement par l'obligation de formation, puisque maintenant tout jeune qui sort du système scolaire et qui n'a pas de solution est automatiquement signalé par l'éducation nationale vers les missions locales, et on a un rôle de contacter ces jeunes pour effectivement les informer sur la possibilité de l'accompagnement qui peuvent leur être proposé par la mission locale. Voilà.
Adam, c'est comme ça que tu as été contacté, ou c'est toi qui as fait la démarche ?
Alors c'est un peu spécial, parce que moi je suis allé m'inscrire à Pôle emploi, et en fait j'ai expliqué mon projet à Pôle emploi, et là Pôle emploi m'a fait allez voir la mission locale. Donc du coup je suis allé vers la mission locale, malgré quelques a priori à l'époque. Enfin, moi, pour moi, la mission locale, j'en ai entendu parler des années avant ma sortie du système scolaire. Et moi, pour moi, la mission locale, c'était un bureau sombre où il y avait quelqu'un qui enchaînait les jeunes toute la journée. Non, mais moi, j'avais vraiment l'a priori au max, quoi. Et en fait, non. Mais du coup, je regrette pas d'avoir fait ce pas-là, en tout cas. Mais c'est vrai que normalement, j'étais pas... C'était pas mon plan.
Donc toi, t'avais l'image de Pôle emploi, t'étais sorti du système scolaire, tu cherchais un emploi, un accompagnement, et pour toi, c'était Pôle emploi qui venait en premier, mais du coup, effectivement, ton profil a été réorienté, et voilà. Okay.
À Pôle emploi, ils m'ont dit, on pourra rien faire pour vous, là, ce stade.
Farid.
En fait, c'est génial ce qu'il vient de dire. Pas par rapport à Pôle emploi, quoi que ce soit, plus par rapport à l'institution, en fait. Institution avec un grand I. En fait... Les jeunes, aujourd'hui, c'est un peu ma mission dans le cadre du dispositif que j'ai, des invisibles, oui. En fait, les jeunes, il faut juste se mettre dans la tête qu'il y a une porte à pousser et que c'est une institution, la mission locale. Et que les jeunes ont du mal à aller vers ces institutions parce que les a priori qui viennent dire Adam, qu'on va se retrouver dans un lieu qu'on ne connaît pas.
Avec une personne qui ne nous a jamais vu.
Qui nous a jamais vu. On va peut-être me rembarrer en me disant que ça va être dur, je ne vais rien avoir à faire pour toi. En fait, il est là le gros virage que l'on prend à la mission locale. C'est-à-dire de pouvoir aussi... et c'est ce qu'on essaie de développer, d'être présent sur les lieux de vie des jeunes pour pouvoir désinstitutionnaliser un peu cette image et de pouvoir se dire c'est pour vous en fait. Et il a dit qu'il en avait entendu parler années avant. Et en fait, notre travail que l'on peut faire aujourd'hui, le but, ce n'est pas de décrocher que tous les jeunes décrochent. Le but, c'est de limiter le nombre de décrocheurs, de préparer leur avenir. Et donc, aujourd'hui, ça me fait penser à un travail que l'on est en train de faire avec le lycée professionnel, lycée pro d'Augustin Thierry, où... on intervient auprès des profs, auprès des élèves. Une image que je vais donner, c'est ce qui s'est passé pour Adam, c'est-à-dire on met des petites graines dans la tête du jeune en disant « Tiens, il existe ça le jour où tu as besoin, que tu n'es pas obligé d'être un décrocheur pour venir. » Et à un moment ou un autre, on va arriver dans son parcours. À un moment ou un autre, il va se dire « Tiens, je vais aller voir le BIJ, par exemple. » Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est en lien avec le BIJ, qui est la boussole des jeunes, qui permet aux jeunes de ne pas aller au bureau et de pouvoir poser des questions. Et donc, après, ça nous est relayé pour que nous, on puisse prendre contact. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on essaye d'aller vers les jeunes.
Aller vers.
Et pour pas que l'institution soit un mur, un bâtiment... Que les jeunes,
il faut décloisonner un petit peu, faire tomber ces fameux murs.
Voilà, ce travail de proximité, cette implantation territoriale aussi, permet aussi aux jeunes, là, n'importe où qu'il y a un jeune, il y a une mission locale, il y a une antenne d'une mission locale, à côté de chez lui, qui peut tout de suite lui ouvrir la porte et commencer un peu à l'aider et à l'accompagner dans son insertion.
On poursuit cette discussion autour des missions locales, de la mission locale de Blois, après cette petite pause.
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire à l'aide d'un stylo. Faites un effort. Écrivez lisiblement en caractère d'imprimerie et tout en majuscule. Identité. Nom, prénom, date de naissance. Où ça ? Téléphone, portable, email, marié, célibataire, vieux, beau, casier judiciaire, champ obligatoire. Diplôme, niveau. Rayez les mentions inutiles, CAP, BEP, inutile, BAC, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 ou plus, recommandé, diplôme 1, intitulé, diplôme 2, intitulé ou plus, recommandé. Sexuel accepté. Niveau débutant, 1 à 2 ans, 1 à 3 ans, une fois par semaine. Description, résumé en 220 caractères maximum. Profil. Bon, alors, moi, sensible et mélancolique, petite frappe, sans scrupule, grand, sec et fourbe. Type de contrat, temps partiel, temps plein, alternance, placard, bonne planque, tourisme, me faf en coulant. Disponibilité immédiate, corps et âme, dans un mois, dans deux mois. Non mais vous croyez quoi? Monsieur l'agent d'accueil. Pièce jointe, lettre de motivation, mensuration, quoi? CV quoi? Photo de mariage, format accepté, Word, RTF, PDF. Mais j'en ai pas. Appuyez sur envoyer, appuyez sur envoyer, ça va marcher si vous appuyez sur envoyer. Perdez votre sang-froid, je plaisante. Ha, ha, ça va marcher si vous appuyez sur un volume. Une erreur grave est survenue dans votre système d'exploitation. On ne plaisante plus. Mais oui, mais une erreur grave est survenue dans votre système d'exploitation. Tapez, signez, terminez.
Vous êtes bien dans la lorgnette consacrée aux 40 ans du réseau des missions locales et nous nous intéressons à la mission locale du Blaisois. Je voulais revenir sur justement cette chanson qui fait un espèce d'entretien d'embauche avec une fiche de recrutement complètement foutraque. Le monde du travail, on a l'impression qu'il a évidemment beaucoup changé en 30 ans et en 40 ans. On a aussi l'impression qu'il s'est peut-être très très institutionnalisé. Est-ce que du coup la mission locale a dû s'adapter aussi aux changements, aux nouvelles exigences du monde du travail pour permettre un accompagnement plus pertinent? J'imagine qu'il y a une remise en question permanente de ces systèmes-là, de ce réseau-là.
On peut le dire. Bon, l'une des particularités un peu des missions locales, c'est leur capacité à s'adapter. Donc notre plus-value, en quelque sorte, c'est cette connaissance qu'on a du jeune, de travailler au plus près du jeune, d'essayer un peu de repérer ses besoins, mais aussi ses forces et ses faiblesses, et de les accompagner dans cette relation vers l'entreprise, dans cette relation vers le monde du travail. Et on doit faire preuve de créativité, d'imagination pour essayer effectivement de rapprocher ces deux mondes-là.
Est-ce que avant justement le patron de l'entreprise, etc., il y a cette figure peut-être un peu, ah non, on va pouvoir peut-être me le confirmer aussi, un peu tutélaire du conseiller? Quelle histoire on développe, quelle relation on développe entre un conseiller mission locale et un jeune? Et puis Adam, tu pourras répondre évidemment à la question, mais Farid, vas-y.
On va de notre côté développer un peu plus ce que j'appelle moi le faire avec. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'image dans le temps où on disait, bah, tiens, on va t'aider à faire
un peu paternaliste.
On va t'aider à faire un CV. Tiens, tu as fait ton CV. On va construire ta lettre de motivation avec toi. Et tu vas aller à l'entreprise X.
Te présenter. Tu mets une belle chemise en fait, et tout ça. Quoi.
Aujourd'hui, ça existe. Les jeunes sont incapables de faire ça. Aujourd'hui, on essaye d'accompagner le jeune parce que ça nous permet, nous aussi, de pouvoir voir les difficultés que peuvent avoir les jeunes dans le lieu, dans l'institution qui peut l'accueillir. Et ça permet de travailler vraiment ces difficultés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est acteur de son projet par rapport à ses difficultés, à ses connaissances, à sa capacité de s'adapter. Et donc, on va aller un peu plus chercher des choses qui pourraient le rendre plus adaptable, que lui pourrait avancer et de concrétiser en fait son projet professionnel, son projet d'insertion, on va dire.
Adam, il y a une part d'affect dans ta relation avec ton ou tes conseillers qui t'ont suivi jusqu'ici?
Depuis que j'ai changé de conseiller et que je suis passé sur leur joue, Alain, qui est mon conseiller, déjà, je commence un petit peu plus à
t'ouvrir un petit peu.
Voilà, c'est ça. Parce que Alain, on a la même façon de penser. Enfin, je me sens un peu plus un peu plus accueilli. Mais c'est chacun a sa personnalité, chacun a les compatibilités avec telle ou telle personne. Mais c'est vrai que. En tout cas, avec Alain, il y a plus qu'un accompagnement vers l'emploi. Parfois, on passe 30-40 minutes à discuter limite de la pluie et du beau temps avec Alain, parce que on s'entend bien et que des fois, le jeune, je vais parler généralement, mais après moi c'est de mon expérience personnelle, mais moi, des fois, je sais que quand je viens en rendez-vous, j'ai besoin des fois d'aborder un sujet tout autre. J'ai besoin de parler un peu d'autre chose avec quelqu'un parce que je sais que socialement, j'ai pas grand-chose. Donc, ça fait du bien de voir du monde. Donc, des fois, et ça, Alain, c'est le comprendre. Et donc, des fois, ça fait du bien de pouvoir discuter aussi d'autres choses que de l'emploi et de l'avenir.
On est
ça
un peu
bien.
Assistant social, grand frère, tout ça.
Moi, je résumerai un peu ce que vient d'expliquer Adam. La force un peu d'un conseiller, c'est d'être à l'écoute. Ça, c'est une des premières qualités du conseiller, c'est d'écouter. d'écouter le jeune qui vient pousser la porte de la mission locale, parce que s'il vient vers la mission locale, il a une demande, une attente. Il a des choses peut-être à venir chercher ou tester ou, voilà, ou voir qu'est-ce qu'on lui propose. Donc, la capacité d'un conseiller, c'est de savoir écouter. Écouter le jeune. Voilà, c'est au jeune de poser ses priorités. C'est au jeune de dire, voilà, moi je viens pour... C'est telle chose qui m'amène, etc. Même si on sait que, voilà, la finalité, c'est peut-être l'emploi, l'insertion professionnelle, mais c'est d'essayer de lui apporter des réponses ou de voir comment travailler avec lui pour lui donner l'envie de revenir.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que disait Adam, c'est bien parce que je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Et ce qu'il vient de dire, c'est vraiment dans ces nouvelles pratiques qu'on a envie d'aller. C'est-à-dire de pouvoir dire, mais en fait, on ne gère pas une machine. On fait de l'humain, comme disait Adam. Il va venir un jour, il a envie de parler, je sais pas moi, du chien qui est passé devant chez lui, de la mamie qui a parlé, de sa copine. Et en fait, il faut qu'on soit là dans ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance chez les jeunes à se marginaliser des institutions, je parle pas de... pour pouvoir construire quelque chose avec les jeunes, il faut pouvoir accepter, nous, d'aborder des sujets peut-être qui ne sont pas dans l'emploi, ils sont pas, et c'est pas une perte de temps, parce qu'à un moment quand cette relation de confiance va être mise en place, je pense qu'on peut le mettre, on pourra proposer aux jeunes plein de choses et il va dire oui parce que il sent que c'est pas juste pour le coincer. On n'est pas là pour faire du chiffrage, je vais être clair. On n'est pas là pour faire du chiffrage. On n'est pas là pour se dire qu'un jeune va rentrer au bout de 3 mois, il va avoir un travail. C'est pas vrai.
Bien sûr, oui.
Enfin, la réalité des choses, elle est là. Il pourrait avoir un emploi. Il va faire un test d'emploi. En fait, il va aller, un jeune qui vient et qui a envie de travailler, moi je vais dire ok, on y va, on va tenter, t'as envie de faire ça, puis on y va. Si ça marche pas, c'est pas grave, on repart. Et en fait, le jeune, il va se dire, mais c'est pas grave, en fait, le conseiller m'a dit qu'on a tenté, c'est pas ce qu'il me faut, on va vers autre chose. Ouais. Il faut provoquer la rencontre. Ouais. Et cette rencontre, en fait, que ce soit en physique ou sur de l'informel sur l'extérieur, et c'est pour ça que c'est important d'être dans les lieux de vie. Parce qu'on va nous voir sur un autre moment, je suis pas avec mon ordinateur, derrière un bureau, comme il disait tout à l'heure, on va rentrer, on va pousser la porte, on va fermer la porte. Là, on va être sur des lieux de vie. Et l'idée de notre travail qui est en train de se construire, en train de s'améliorer, c'est en s'adaptant à la jeunesse. Et en fait, aujourd'hui, on a envie qu'un jeune puisse venir à la mission locale et se pose, et vienne discuter, vienne échanger avec les autres, vienne poser une question qui n'a rien à voir avec une recherche d'emploi. Et je pense que là où on pourra se dire qu'on aura avancé dans notre pensée, dans nos missions, en fait.
Je pense que, oui, vas-y, je rajoute juste un truc, je pense que ce qui est bien aussi et ce qui enlève ce côté de mon a priori que j'exprimais tout à l'heure, c'est que en fait c'est pas vraiment le conseiller mission locale qui va donner l'impulsion pour faire avancer le projet, c'est vraiment aux jeunes de faire les choses. Le conseiller, il va donner des éléments, après c'est aux jeunes de choisir les éléments. Moi, en tout cas, c'est, encore une fois, de mon expérience personnelle avec Alain va me proposer... Alain parfois va me proposer tel ou tel dispositif, il va me laisser une ou deux semaines pour réfléchir, et ça m'est déjà arrivé de lui dire non. Et on m'en a pas tenu rigueur, parce que moi je me suis dit sur le coup, en arrivant dans le bureau, je me suis dit je vais lui dire non, il va me dire bah vous êtes pas volontaire machin, parce que c'est quelque chose dans des là encore on fait le rapprochement un peu cliché avec Pôle Emploi, où on se dit ça va faire comme à Pôle Emploi, on va nous dire qu'on n'est pas volontaire ou quoi, alors que non, on a le droit de dire non aussi, et le conseiller s'adapte en fonction des réponses.
Chaque semaine, la Lorgnette recommande un ouvrage, un podcast, un article à lire ou à écouter. Cette semaine, je vous propose un podcast qu'on peut retrouver sur YouTube qui célèbre justement les 40 ans d'émissions locales. Ce podcast, cet extrait que je vous propose, a été réalisé, c'est dans le cadre de 4 épisodes réalisés par la mission locale du pays de Lorient.
Alors les grands chantiers qui arrivent, bon, je pense qu'avec le contexte national... qu'on regarde avec beaucoup d'attention, c'est France Travail. On a peu d'éléments hein, là-dessus, c'est certain. Notre réseau national n'a pas de communication claire, officielle là-dessus. De toute façon, pour le moment, c'est une mission de concertation qui se met en place. Ce qu'on a perçu dans le dossier de presse, c'est qu'effectivement, le contrat d'engagement jeune a vocation à se développer. Hein. C'est une offre d'accompagnement qui effectivement est mise en perspective. Pour nous, je dirais plus globalement sur notre territoire, mais je sais que c'est le cas ailleurs, les projets qui sont devant nous, c'est quand même tenter de résoudre les problématiques d'accès au logement. La Bretagne devient un territoire de plus en plus attractif avec des difficultés d'accès, ne serait-ce qu'à l'accession à la propriété, des files d'attente importantes dans le logement social, des problématiques pour les travailleurs saisonniers, le logement étudiant. Par répercussion, les jeunes qui sont en début de parcours, qui cherchent un logement, c'est d'autant plus difficile pour eux de trouver des solutions. Donc il nous appartiendra d'être assez créatifs et innovants pour, bien sûr, en relation avec les élus du territoire, de proposer des projets qui permettent de contribuer à résoudre ces difficultés. Les solutions de déplacement, la mobilité restent un sujet majeur. Les questions de santé, on voit bien que la crise sanitaire a eu des effets, a eu de l'impact hein, sur les situations des jeunes. Beaucoup d'isolement, de la souffrance psychique hein, qu'on perçoit très fortement de plus en plus. Donc on a recruté une infirmière, nous, à la mission locale cette année, et on a vocation vraiment à peut-être développer des réseaux santé pour les jeunes sur le territoire. On sait que ça peut être difficile de trouver un généraliste, des médecins spécialistes. Donc vraiment, on a, je pense, une fonction aussi de contribution au développement d'une offre santé pour aider les jeunes en termes de prévention et de prise en charge quand il y a des souffrances importantes. Mais je pense qu'on a tout intérêt à se renforcer en termes de réseau pour peut-être plus de fluidité, plus des prises en charge plus rapides. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais je pense qu'on a vraiment un chantier là-dessus.
Amadou, vous souscrivez, j'imagine, à tout ce que cette conseillère Pôle emploi, mission locale, pardon, vient de dire. Alors, c'est la mission locale, donc je le répète, du Pays de l'Orient, mais j'imagine que ça s'applique aux Blaisois sans problème.
Voilà, pour réagir un peu à ce podcast qui parle de deux choses. Hein. Il parle un peu des partenariats qui peuvent être mis dans la perspective de ce que l'on appelle France Travail, qui est en fait une idée que le gouvernement souhaite mettre en place, c'est-à-dire des lieux où tout jeune peut s'adresser, etc. Bon, ça ne va pas encore être une institution, hein, parce que je suis très, très bien placé pour en parler, puisque en tant que chargé de projet à la mission locale de Blois, j'ai en charge tout le partenariat avec Pôle emploi.
Ouais.
Quand on parle de partenariat, c'est gagnant-gagnant, c'est des complémentarités entre deux structures qui accompagnent les mêmes publics. Voilà, et je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir effectivement trouver des complémentarités, une meilleure articulation au bénéfice des jeunes. Pour que à chaque ensuite, par exemple, s'il pose une problématique que le Pôle emploi n'est pas en capacité de résoudre, qu'il soit aussi en capacité de l'orienter vers l'organisme, vers la mission locale ou la structure la plus appropriée pour traiter la problématique du jeune ou son besoin actuel. On va développer tout le soutien psychologique au niveau de la santé. C'est-à-dire, on a parlé de Covid, des crises d'angoisse des jeunes, etc., par rapport à leur mal-être, leur manque de confiance. Ben, les missions locales ont développé du soutien psychologique avec des psychologues qui sont à la mission locale, qui peuvent recevoir...
On voit là, le podcast... Voilà, Lorient, ils ont engagé une infirmière.
Voilà,
au sein
une
de la
infirmière.
Locale,
nous, à la mission locale de Blois, on a deux psys qui sont là, qui accueillent les jeunes sur la base du volontariat et qui les accompagnent à etc. C'est ce que ne peut pas faire un conseiller. Par contre, s'il voit que le jeune est en souffrance par rapport à des besoins par rapport à ça, on lui offre la possibilité de le faire. C'est pareil au niveau du loisir, ça peut être pareil, etc. Donc c'est cette capacité d'innovation, cette capacité d'adapter, d'offrir des solutions, de travailler sur un certain nombre de choses que c'est ça la force des missions locales. Pôle emploi ne peut pas faire ça. Hein. Et c'est un peu ce qu'expliquait un peu Farid, qui lui aussi a développé dans le cadre du projet des Invisibles. Il a une autre approche, etc., sur une expérience qui s'est passée tout récemment sur Blois, que peut-être lui, il pourrait un peu développer. Hein.
Je sais. En fait, l'idée, c'est ce que vient de dire Amadou, c'est de pouvoir... insuffler des nouvelles idées, des nouvelles pratiques. Et en fait, là, depuis la rentrée, la mission locale réfléchit en groupe sur nos pratiques, sur comment on pourrait accompagner les jeunes et dans quel cadre. En fait, il est impossible de dire qu'aujourd'hui, un jeune, je le répète, vient rentrer à mission locale et a un emploi dans l'heure.
Bien sûr, oui.
Ça n'existe pas. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que pour pouvoir arriver à l'emploi, pour pouvoir arriver à la formation, pour pouvoir arriver à de l'alternance, il faut pouvoir s'intéresser à l'environnement général, global du jeune. Et en fait, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a différents pôles projets où l'on travaille sur les pratiques. Donc, Amadou est sur le secteur de la formation, sur le lien avec Pôle emploi. On a une collègue qui s'occupe autour de l'orientation, de la santé, de la vie sociale. Moi, j'ai en charge l'accueil et le repérage des jeunes sur tous les territoires de la mission locale du Blaisois. Et en fait, ce petit travail en petit groupe permet de vraiment s'intéresser aux jeunes et aux difficultés du jeune aujourd'hui, parce qu'elle a parlé de mobilité. Aujourd'hui, on est en train de, comme disait Amadou Tern, on aimerait que dans chaque coin de notre territoire, il puisse y avoir des permanences régulières pour que les jeunes puissent y aller. Parce que, en fait, les rendez-vous, c'est bien beau. Mais on sait bien que le rendez-vous qu'on va prendre une semaine avant, on n'est pas sûr d'y être la semaine prochaine. Enfin, les jeunes ne sont pas sûrs d'y être. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre très vite. C'est-à-dire que le jeune a un besoin, la famille a un besoin, le partenaire nous sollicite. Et on est en train de travailler pour qu'on puisse rencontrer le jeune rapidement. Très rapidement, je dirais même. Pourquoi ? Parce que si on lui donne un rendez-vous dans un mois, il va se passer beaucoup de choses. On n'est pas sûr de le revoir. Et donc, le fait d'être présent aussi sur le territoire, sur des lieux publics, ça permet de, comme je disais tout à l'heure, désinstitutionnaliser nos liens. Et en fait, on peut se rencontrer aujourd'hui hors un bureau. On peut se rencontrer aujourd'hui dans une association, on peut se rencontrer
dans un autre lieu,
dans un bar, dans un lieu où il est plus adapté. Pourquoi ? Parce qu'on va créer ce lien, en fait. Et l'idée de pouvoir répondre à la demande du jeune, c'est encore dans le cadre de l'adaptation à sa temporalité. En fait, leur temporalité n'est pas la même temporalité que nous en tant qu'institution. Et donc, ça devient important de s'interroger là-dessus. Et aujourd'hui, on s'interroge là-dessus. Le fait d'avoir deux psys à la mission locale qui peuvent accueillir les jeunes de façon gratuite. Il y a pas de, il y a un rendez-vous à prendre, mais c'est de façon gratuite. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de tarification.
Et donc, on insiste là-dessus et sur le loisir, de pouvoir captiver les jeunes via le loisir, le culturel, ça permet aussi de construire ce que disait Adam tout à l'heure, construire un projet futur, en fait.
Dernière question, on a fait à peu près le tour, on a compris comment rentrer était accueilli un jeune. Comment sort un jeune de la mission locale ? Donc on a compris que c'était pas le travail qui allait faire qu'on sortait du dispositif mission locale. À quel moment on décide que le jeune peut être autonome et libre de voler de ses propres ailes ? Allez, sortons une image un peu stéréotypée.
C'est quoi d'être autonome, Thomas ?
Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est une question d'autonomie par rapport à une situation, un contexte ?
Avant, on disait que l'organisation linéaire d'une vie était je sors de l'école, je fais une formation, je trouve un travail, je me marie, je fais des enfants, je m'achète une maison, et puis je continue, et puis jusqu'à
la retraite.
Que je sois à la retraite, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, vous dites ça à un jeune, il me dit...
Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Même à un moins jeune, d'ailleurs.
Un moins jeune. Donc aujourd'hui, l'autonomie, elle est où, en fait ? Surtout avec ce qu'on vient de passer sur la crise sanitaire. On va demander des choses à des jeunes qui ont connu cette crise sanitaire de plein fouet, où ils ont été isolés, où ils sont encore plus isolés, où la confiance à l'autre est très compliqué et en fait où il manquait du lien quoi. Et donc on a beaucoup de jeunes aujourd'hui. La mission locale n'est pas juste pour les jeunes décrocheurs. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent d'un master 2, qui n'ont pas les clés pour aller vers l'emploi. Et en fait, on va les accueillir les bras ouverts et d'essayer de les accompagner parce que on nous a limités dans les rapports, dans la construction du terrain, dans l'expérimentation et tout ça. Donc, pour moi, l'autonomie, Thomas, franchement...
Alors, si c'est pas l'autonomie, c'est le jeune qui décide. Voilà, là, j'ai atteint les objectifs que voilà. Je m'étais fixé. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup servi et beaucoup aidé. Et voilà, voilà maintenant, je peux...
Je vais essayer de pour répondre. Conclure, voilà, pour conclure. Bon, c'est vrai que... On est quand même on a un public, c'est les 16-25. Hein. Pour l'instant, on nous a pas amené au-delà. L'objectif un peu de tout cet accompagnement, c'est comme on le dit un peu, c'est l'accès. Avant, on disait l'accès à l'emploi. Hein. On considérait qu'on avait atteint l'objectif de l'accompagnement lorsque le jeune entrait sur un contrat de plus de 6 mois, ou bien sur un CDI. Mm-hmm. Ou bien sur un contrat en alternance. Ouais. Voilà, les objectifs étaient atteints par rapport à ça. Mais on sait très bien, comme le dit Farid, il n'y a pas que ça, ce n'est pas les seules mesures. Donc là, actuellement, sur la plupart des dispositifs, que ce soit le contrat d'accompagnement jeune, le contrat d'engagement jeune, que ce soit le PASEA, qui est un parcours d'accompagnement contractualisé vers l'accès vers l'emploi et l'autonomie, c'est en fonction des objectifs que le jeune s'est fixé. C'est l'atteinte de ces objectifs. Ça peut être des objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs d'emploi,
bien sûr, ouais.
Mais qui peuvent être des objectifs par rapport à sa santé, par rapport à ses loisirs, par rapport à un certain nombre d'éléments. Donc c'est ça qu'on est en capacité de mesurer. C'est quand le jeune...
Donc ce n'est pas forcément j'ai un emploi, mais je sais identifier les ressources dont j'ai besoin, voilà, c'est les partenaires.
Voilà, c'est
de se
mobiliser. Je sais
ce que je dois faire. Voilà, et c'est là que l'accompagnement peut se terminer.
Voilà, c'est ça l'accompagnement. L'autre jeune accède à son autonomie quand il est en capacité d'utiliser les outils, d'utiliser les dispositifs, d'utiliser... toutes les choses qui vont lui permettre de se réaliser. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est limité à au-delà de 26 ans, 25 ans, on n'accompagne plus le jeune. Mais au moins pendant ce laps de temps-là, en fonction de ses besoins, on va l'accompagner dans la région.
La mission locale lui aura donné les outils.
Voilà. Donc, comme le disait aussi Farid, hein, la mission locale, ce n'est pas simplement des cassos. Hein. Je dis bien, la mission locale accueille et accompagne tous les jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils habitent en zone rurale ou en milieu urbain, etc.
Avec un tous handicap
jeunes,
ou pas.
Voilà, handicapés ou pas, tous les jeunes sont accueillis et on va essayer avec eux de construire un parcours d'insertion en fonction de leurs besoins, en fonction de là où ils en sont, afin de les aider à évoluer, à avancer.
Dernier mot, Adam.
Ah bah moi, si je pourrais résumer tout ça en une phrase, tout ce qu'on a dit en une phrase, vous m'arrêtez si je dis une énorme bêtise, hein, ça m'arrive souvent. Moi, je résumerais par le fait que la mission locale, c'est pas vraiment un lieu de développement professionnel. Je dirais plus que c'est un lieu de développement personnel qui bénéficiera au développement professionnel.
Très bien. Eh bien, donc, merci à Amadou Tal, la chargée de projet à la mission locale du Blaisois. Farid Haddak, merci également, pareil, chargée de projet à la mission locale. Et Adam, donc, qui continue son parcours aussi et son accompagnement avec la mission locale. Merci à tous
et
les
si
trois.
Je peux oui. dire, si je peux dire merci à Alain aussi, on y revient, parce que j'étais censé avoir rendez-vous avec lui sur ce créneau et il a accepté de me laisser participer à l'émission.
Il a accepté que tu viennes ici enregistrer. Pour
mais
avoir
j'ai pas réussi
œil.
À le ramener.
Thomas, juste pour terminer, hein, on est venu avec Noah, donc qui est.
J'allais
qui
en
est,
parler.
Voilà, qui est un jeune qui a été embauché à la mission locale de Blois et qui va s'occuper un peu de tout ce qui va être la communication de la mission locale par rapport aux jeunes, par rapport aux institutionnels. C'est pour mieux faire connaître la mission locale, mieux faire connaître l'autre offre de service, hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure des déficits un peu de la mission, c'est sa méconnaissance. Hein. Donc, c'est de cibler vraiment notre, d'atteindre notre cible et de leur, en leur donnant une communication, en leur donnant l'offre de service pour que à chaque fois qu'ils soient confrontés dans le VA à un moment donné, qu'ils aient le réflexe de penser mission locale.
Et moi je vais excusez-moi Thomas, moi je vais aussi dire que en fait le chargé de com à la mission locale va nous permettre à nous les anciens qui sont un peu à l'ouest avec les réseaux sociaux d'être présents dans le lieu, dans un lieu de vie des jeunes et en fait on n'est pas, je suis d'accord, c'est important de parler des offres de services, mais je pense que c'est important aussi juste que les jeunes sur leurs réseaux, surtout les réseaux qui aujourd'hui deviennent une part importante de leur vie, d'être présents aussi par des animations, par des sondages, des photos et tout ça. Et en fait, ça permet de parler de nous, en fait, et de parler aussi des missions que l'on a, parce que les missions, elles sont pour les jeunes et pas pour nous, en fait.
Très bien. Et je rappelle également que Studio ZEF accueille régulièrement des contenus produits par la mission locale de Blois, piloté le tout par Noah, ici présente effectivement, qu'on salue. Merci à tous les 3, 4 du coup d'être venus. J'espère qu'on vous aura éclairé sur le sens et les rôles et les missions de la mission locale du Blaisois. On se quitte comme d'habitude avec, comme chaque semaine, un journal de bord. Cette semaine, le journal de bord d'un élu local. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine lorgnette. Salut.
Merci Thomas.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 63. Une délégation à la cause animale, point d'interrogation, c'est formulé sous forme de question. Voilà, avec notre invité, Sylvaine Borel, c'est parti. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
À chaque fois que je dis bonjour à Nicolas, il fait un grand sourire parce que il sait que c'est très important le sourire.
C'est la joie.
Ça s'entend dans la voix.
C'est exactement ça, ça s'entend dans la voix. Bonjour Sylvaine.
Bonjour Gaël, bonjour Nicolas.
Bonjour Sylvaine.
Sylvaine Borel, tu es conseillère déléguée aux personnes âgées et aux politiques intergénérationnelles déléguées au Conseil des sages. Et c'est juste encore, je me suis pas trompé.
C'est exact.
Bon, en même temps, je l'ai noté, donc c'est pas trop difficile.
Ça devrait aller.
Et alors, Sylvaine, quand je t'ai rencontré, tu m'as parlé de ton chien et on s'est dit que ça ferait un bon sujet pour le podcast de parler un petit peu de la politique des animaux de compagnie.
Mm-hmm. Oui, la place de l'animal en ville et de l'animal médiateur. Toi, tu nous disais qu'on parlait de l'intergénérationnel, beaucoup sous l'angle comment on fait du lien entre les générations. Et je te posais la question, est-ce que l'intergénérationnel, c'est pas aussi comment on est bien, comment on se sent bien à tous les âges de la vie? Et tu as fait le lien justement avec la question de l'animal de compagnie qui nous suit à différentes étapes de notre vie et comment on accueille ça dans les services. Est-ce qu'il y avait eu des évolutions au CIAS? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Alors, d'après ce que j'en sais, parce que ce n'est pas ma délégation exactement. Hein. Je n'ai pas la délégation à l'animal, à la cause animale, mais c'est dommage.
Ça n'empêche pas que tu as le droit
de t'y intéresser. Et vous me disiez que ça n'existe pas aujourd'hui, de toute façon.
A priori, non, dans la ville de Blois, non, mais ça n'existe pas, non.
Mais ça changera peut-être.
Peut-être un jour, on ne sait jamais. En tous les cas, c'est un beau sujet. Et il y a quand même des choses qui se font, bien évidemment. Alors, entre autres, je sais que dans les services, maintenant, le personnel mairie peut amener son chien. Alors, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais je crois qu'il peut emmener son chien. Dans les bureaux. Et ça, c'est au travail. Donc, et ça, c'est quand même un gros plus hein, en termes de bien-être personnel, à la fois de l'humain et de l'animal. Et donc j'ai maintenant aussi autorisation à amener mon chien dans certaines réunions.
Et pourquoi c'est important pour toi ?
Pourquoi c'est important pour moi ? Alors moi je suis une défenseure de la cause animale. Je pense que c'est aussi un moyen pour les humains de se reconnecter à la nature que d'être en contact avec ces animaux-là. Et puis surtout d'apprendre aussi à les écouter, à les entendre et à ne pas faire de bêtises non plus parce qu'un chien a un tempérament, un comportement particulier et il faut donc apprendre aux gens à s'occuper correctement d'un chien ou d'un autre animal.
Pour toi, pouvoir l'emmener avec toi dans ton bureau, c'est savoir bien s'en occuper Ou c'est aussi quelque chose de bon pour toi aussi ? Dans quel sens ?
C'est bon pour moi, c'est bon pour l'animal, parce que globalement, c'est aussi socialiser le chien, parce que les chiens, c'est très important de les socialiser. C'est-à-dire qu'on n'ait pas affaire justement à des chiens qui deviennent dangereux parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'être en contact avec des humains, avec des animaux, avec toutes sortes de situations qui peuvent être stressantes. Si le chien est habitué, tout se passe très bien.
Il y a des lieux de sociabilisation entre chiens ?
Alors ça existe dans certaines villes où on crée des grands espaces, alors ça a différents noms. Il y en a un à Tours par exemple, où les chiens peuvent se rencontrer et puis jouer ensemble et encore une fois se socialiser.
Et du coup les propriétaires font connaissance aussi.
Exactement, parce que alors ça je peux vous dire que moi qui me promène mon chien en bord de Loire, j'ai jamais autant parlé avec les gens que parce que j'ai un chien. Alors, il y a les amoureux des chiens, il y a ceux qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce chien-là, voilà, donc c'est vraiment le chien quand il est bien socialisé. Comme mon chien, par exemple. Le chien, quand il est bien socialisé, il sert de médiateur, il peut même avoir un aspect un peu thérapeutique, c'est-à-dire que des gens ou des chiens très excités qui s'approchent commencent à se calmer avec un chien très calme. Comme
Mais je sais que je travaillais un peu avec le domaine de Chaumont-sur-Loire sur la question des jardins thérapeutiques, et c'est vrai que par le lien à l'animal, ça se développe beaucoup.
C'est très important. Oui.
Je sais pas, est-ce qu'au CIS, avec les résidences autonomie, il y a des choses sur le...
Alors là, il y a quelque chose de nouveau. On a voté ça dernièrement en CA. C'est qu'il y a une autorisation, que maintenant, les résidents ou les nouveaux résidents pourront venir avec leur animal, leur chien a priori.
Dans les résidences autonomie.
Dans nos deux résidences autonomie.
C'est quoi les résidences autonomie ?
Ce sont deux résidences pour personnes âgées, mais qui la dépendent du CIAS. Hein, il y a d'autres structures, voilà. Donc qui restent dans quand même assez.
Qui sont en perte d'autonomie et qui vont dans leur résidence avoir un. Un accompagnement
Des gens qui ne peuvent pas rester chez eux et qui peuvent, parce que à cause du vieillissement, et qui viennent ensemble.
Oui, oui, et avant ça, avant de rentrer en résidence autonomie ou dans un EHPAD, qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs animaux de compagnie ? Il fallait qu'ils s'en séparent. Donc c'était du coup,
Toujours,
et pour l'animal et pour le propriétaire.
C'est toujours le cas. Là, j'étais chez mon vétérinaire, j'ai vu une petite affichette avec un chien, une annonce pour un chien. Nous devons partir en EHPAD, nous devons nous débarrasser. Il y avait la photo de l'animal et son nom.
Voilà,
je trouve que c'est un gros plus que maintenant, les gens qui ont leur animal, quel traumatisme d'aller, de se retrouver déjà, d'être obligé de partir de chez soi pour aller dans une maison, autonomie, et être obligé de se débarrasser de son animal,
oui, ça
c'est traumatisant, quoi.
De continuer de se sentir chez soi, justement.
Continuer de se sentir chez soi, puis il y a des relations affectives qui se tissent entre les humains et les animaux, heureusement, parce
que... Ouais, là, pour le coup, je trouve que c'est un exemple très parlant qui montre à quel point ça peut être important. Moi, je vois très bien, comme là, tous, on a des personnes âgées dans nos vies, et moi, je vois très bien que le déracinement, déjà, de quitter chez soi, c'est déjà très, très dur. Surtout que souvent, ces gens qui ont vécu la moitié de leur vie dans la même maison. Alors, si en plus, il faut se débarrasser de son principal compagnon, c'est...
Non, mais c'est sûr.
Alors, on parle beaucoup on a beaucoup parlé de l'animal de compagnie. Mais est-ce que la condition animale en ville, c'est pas aussi la question de la condition animale, c'est pas aussi la question de la biodiversité Moi, c'est une question que je me pose. Je sais qu'à Tours, une fois encore, ils ont vraiment une conseillère déléguée sur la condition animale. Mmh. Et il y a des chartes, par exemple, quand il y a l'usage de chevaux, quand il y a des animaux qui pèsent.
D'accord. Quand il y a usage de chevaux dans la ville,
Par exemple, la police montée municipale, il va y avoir une manière de s'occuper des chevaux. Ou quand on fait du pâturage urbain en ville pour maintenir des prairies basses, il va falloir avoir un certain soin des ovins. Je sais que... Et nous, au parc d'Aimé, par exemple, il y a des animaux, il y a des lamas et tout ça, on pourrait se dire, c'est quelque chose, là, on a eu un comité de pilotage, on s'est dit, il va falloir qu'on reprenne la convention d'usage du site, parce qu'elle est périmée, tu vois, c'est des conventions de 3 ans. Ouais. Je sais que j'ai demandé à ce qu'il y ait quelque chose sur le bien-être animal. Tu vois, je pense que c'est important aussi.
Oui, en effet.
Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la question, hein, pour le coup. Je sais aussi que, voilà, avec la LPO, on va... rafraîchis-moi un peu la...
Oui, avec les... la LPO, oui, c'est Hélène Menou, c'est vrai, tu as raison d'en parler. Hélène Menou, elle nous a parlé d'une convention avec la LPO. Il y a un refuge LPO qui est mis en place au pied de la mairie. Là où les murs de soutènement avaient dû être refaits. Et puis, en tout début de mandat, on avait demandé à ce qu'il y ait un recensement de tous les nids de martinets et d'hirondelles sur les façades du centre-ville pour pouvoir les protéger avant de rénover les façades. Parce qu'on a des grandes opérations de rénovation des façades pour préserver le patrimoine historique. Mais comme c'est aussi des endroits où on a des nids d'oiseaux protégés qui sont là, il ne faut pas qu'au moment de la rénovation de la façade, on détruise des nids d'espèces protégées. Donc la LPO nous a aidés.
La LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux.
Tout à fait. La Ligue de protection des oiseaux, bien joué.
Oui, moi je pensais aussi la question, tu sais, de la sécheresse, hein, et que voilà, il faut aussi alerter les gens sur le fait qu'ils doivent laisser dans leur jardin, quand ils ont la chance d'avoir des jardins, de l'eau pour les animaux. Moi, je sais que j'ai laissé de l'eau au fond de mon jardin, qui donne sur la voie ferrée, et j'ai eu la joie, enfin, de voir des grosses couleuvres qui venaient boire, quoi. Et donc ça, c'est ouais, hyper important.
Et moi, depuis la semaine dernière, j'ai un hérisson d'Europe qui est espèce protégée qui pourrait disparaître dans les 10 prochaines années, qui est venu dans mon jardin. Ouais, et notamment, je pense, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'insecticides et de pesticides.
C'est ça, moi aussi.
Et voilà, c'est... Donc chacun, à titre personnel, on n'a pas à avoir un rôle, mais aussi en tant que collectivité, quand on est sorti des pesticides et des insecticides dans l'espace public, ça permet tout ça, ça permet le retour de la nature en ville, des oiseaux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a souvent plus de biodiversité dans les villes que dans les campagnes, grâce à toutes ces politiques publiques. Parce qu'il y a plus de diversité d'arbres, d'essence, et il y a aussi voilà, moins d'usage de chimie en fait, dans les espaces publics suite à la loi Labbé.
D'accord. Voilà. Ok.
Ouais, c'est assez intéressant. Et Hélène aussi parlait d'un partenariat, parce qu'on a des tours à hirondelles qui permettent à des hirondelles de venir nicher. Par exemple, quand la caserne... Maurice de Saxe a été refaite, il y avait eu destruction de nids, ils avaient mis une tour à hirondelles. Mais cette tour à hirondelles n'a jamais été habitée. Et donc là, dans la convention avec la LPO, l'idée c'est de passer une bande de repasse. Parce qu'en fait, quand tu mets des sons d'oiseaux, d'hirondelles, ça permet aux hirondelles de repérer les nids et de revenir. Et puis une fois qu'elles sont installées, elles reviennent tous les ans. Donc il y a quand même un peu de suivi. Et c'est vrai qu'on a la chance sur notre territoire d'avoir des associations environnementales vraiment intéressantes. La LPO, mais aussi Loire-et-Cher Nature, qui a permis la protection du castor sur la Loire. Voilà.
Oui, puis ces animaux sauvages, on a encore, on a la joie aussi de pouvoir les observer sur la Loire ou en bord de Loire. Et là, on s'est carrément à notre pied, hein, au pied de nos maisons, quoi. Je me promène tous les jours en bord de Loire et tous les jours, j'en vois et je me dis qu'il faut vraiment qu'on fasse tout ce qu'on peut pour leur garder des bonnes conditions d'habitat.
Ben on va finir sur cette belle image.
Absolument. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Sylvaine, d'être venu avec nous parler de tout ça. Et puis, Nico, on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt. C'est toujours un plaisir.
Merci
à
vous, Sylvaine. Les deux. Merci. Salut.
Merci.
Moi, c'est mon premier mandat.
Ton premier mandat de quoi ?
Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois.
Ah, moi, je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité.
Et on en a déjà fait 60. Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast, à raison de 3 par mois. Les applis de podcast, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et on est aussi sur la radio locale Studio Zef.
Agitateur de fréquence.
Dans l'émission La Lorgnette.
C'est 91.1, c'est ça ? FM.
Chaque jeudi.
À 17h.
Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao.
Ciao, merci. Ciao, ciao.